Nous sommes tous des consommateurs, nous sommes tous des acteurs. L'UFC Que Choisir de l'Ain vous informe.
Bonjour, chers auditeurs de Radio B. Je suis Laurent de l'UFC Que Choisir et je suis avec Jean-Marc, qui, dans une précédente émission, nous avait parlé de la filière laitière française en illustrant les enjeux socio-économiques des agriculteurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autre partie aussi importante, la filière industrielle laitière. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour informer le consommateur. Jean-Marc, peux-tu nous faire une petite introduction ?
Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Laurent. Une introduction sur la filière industrielle. Oui, bien sûr. Alors, on peut, déjà... dissocier les choses et faire un petit retour dans le passé. Pourquoi ? Parce qu'avant, on produisait les fromages, le lait, les yaourts et tous les produits laitiers directement à la ferme. Ça veut dire que la filière, elle existait localement, elle était très locale. Donc, on pourrait illustrer ça avec, par exemple, le reblochon. Un fromage qu'on aime bien, qui est très, très sympathique, qui nous fait des bons petits plats. Son origine, ça remonte au XIIIe siècle. Alors, dans les alpages des vallées de Tône, à cette époque, les propriétaires des terres, qui étaient surtout des nobles ou des religieux, donc possédaient ce qu'on appelait un droit d'osiège sur les paysans qui exploitaient les alpages. Et donc, ils percevaient un loyer. Et pour percevoir ce loyer, ils venaient inspecter et calculer combien de pots de lait pouvait produire une ferme. Et le loyer était fonction du nombre de pots. Et donc, bien évidemment, c'était toujours un loyer qui était trop cher pour nos chers paysans. Donc, ils avaient trouvé une petite astuce qui consistait, le jour de l'inspection, à ne pas traire complètement les vaches. C'est-à-dire suffisamment pour que ça paraisse crédible, mais pas tout à fait. Et donc, une fois que l'inspecteur était parti, donc il faisait une deuxième traite avec un lait qui était beaucoup plus onctueux, plus crémeux, et qui transformait en fromage, et le fromage qui s'adaptait le mieux à cette production de lait, ils l'ont appelé le reblochon. Alors le reblochon, pourquoi ? Parce que reblocher en patois savoyard ou savoisien, ça signifie faire une deuxième traite. Donc déjà, on sentait dans cette filière industrielle une idée quand même des coûts, du profit, même si on était à une échelle locale et à l'échelle de la ferme. Il y a toujours eu cette idée, quand même, de gagner sa vie au travers de l'élevage.
Et comment la concentration du marché laitier s'est-elle développée ces dernières années en France ?
Oula ! Alors là, c'est une bonne question, parce que c'est un vaste sujet. En fait, on a une dizaine de grands transformateurs. Les plus connus, c'est Lactalis, Sodial, Savencia, qui s'appelait Bongras avant. Il y a Bell aussi. Alors Sodial, c'est Yoplait, hein, ou Lactalis, c'est connu pour des marques comme Président, par exemple. Donc ces 10 grands transformateurs, ils contrôlent 70% de la collecte de lait. Au travers de filiales qui ne portent pas directement leur nom. Et alors qu'est-ce qui se passe avec cette concentration ? C'est quand on 70%, c'est quasiment l'intégralité du marché, hein, ou une grande partie. Parce que tout le reste, c'est souvent des dérivés aussi. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils fixent un prix du lait. Et qu'il est très difficile pour un agriculteur de dire bah, « Tiens, aujourd'hui, j'étais chez Lactalis, je vais passer chez Sodial. » Et en fait, il va se retrouver avec le même prix. Donc, aucun avantage pour lui de changer de collecteur de lait. En plus,
C'est un peu l'enquête récente que l'autorité de la concurrence a mise en pratique, là,
sur les pratiques. C'est exactement ça. Hein, c'est-à-dire que l'autorité de la concurrence... Et fait plus que soupçonner, puisqu'ils ont dépêché une enquête judiciaire. Ils ont été saisir des documents directement. Et s'ils les soupçonnent d'entente cordiale, c'est-à-dire de fixer arbitrairement et de ne pas avoir le jeu de la concurrence, de fixer le prix du lait de manière à avoir le prix le plus bas possible. Et donc, c'est Lactalis qui a fait appel de la saisie des documents. C'est-à-dire qu'ils vont faire appel sur un tas de choses. Je crois que la Cour d'appel de Paris a rejeté en fait cet appel de Lactalis en disant non, il y a bien matière à enquêter parce que les choses ne sont pas claires du tout.
Donc, tout à l'heure, tu as parlé de Lactalis. Donc, quel scandale alimentaire ont attaché sa réputation ces dernières années?
Alors, bah, on peut parler de Lactalis parce que c'est le leader. C'est pas le seul, mais pour bien informer le consommateur, il y a pas mal de choses que l'on peut dire sur les pratiques industrielles. Alors, la première des choses, c'est qu'ils sont déjà fait condamner dans les années 90 pour avoir affiné de l'emmental sous les sacs plastiques. C'est-à-dire que ce n'était pas dans des caves sur des planches en bois. Ce n'est pas les caves de Roquefort. Ça s'affinait directement dans le plastique. Alors on peut se dire, bon bah ça y est, on se fait prendre la main dans le sac, on va arrêter. Ben non, on continue. Parce que dans les années 2000, il y a eu des fraudes sur les comtés. Alors le comté, on est concerné ici dans l'Ain parce qu'on a des fruitières qui font du comté. Sur le lait. Et pour, par exemple... augmenter son profit. Pendant des années, ils ont coupé leur lait avec du perméa. Alors, c'est quoi le perméa? Voilà, c'est une bonne question. C'est un coproduit du lait ou du sérum. Donc, c'est en fait un résidu aqueux beaucoup moins cher que le lait. Voilà, ça permet d'avoir la consistance du lait, d'avoir le bon nombre de protéines, etc. Mais ce n'est pas du lait à la base.
D'accord.
Alors, je peux en profiter aussi parce que... il y a eu aussi un scandale de fraude avec du lait pasteurisé qui était en fait du lait UHT, du lait frais, pardon, pasteurisé qui était en fait du lait UHT. Il y a eu 28 usines sur 54 sites impliquées dans des rejets toxiques. Alors là, ce n'est pas spécifiquement Lactalis, mais je veux dire, c'est à peu près sur 54 sites, 28 impliqués dans des rejets toxiques. Mais quand on prend celui qu'on citait, donc par exemple, c'était en 2020. Voilà, avec 280 tonnes de lait traité et transformé par jour, une petite société fromagère à Riom-Es-Montagne. Donc quand on analyse l'eau de la rivière, ben, on trouve que tout est bien pollué. Voilà, parce que il y avait un dysfonctionnement majeur de la station d'épuration. Carrément. Donc il déversait dans le ruisseau d'à côté les eaux usées avec des taux élevés d'ammonium et de nitrate. Donc la pollution, c'est assez récurrent. Ils se sont fait condamner, je crois que c'est à Lons-le-Saunier, en 2024. Ce n'est pas exactement les mêmes faits, mais c'est toujours pour de la pollution. Donc sur ce côté-là, ce n'est pas d'énormes progrès à faire. Il faut vraiment prendre le sujet, parce que polluer les rivières, ça a des impacts écologiques, je veux dire, sur beaucoup de choses. Et puis ça prouve que la fabrication, finalement, elle n'est peut-être pas si bien traitée que ça.
Et maintenant, qu'est-ce qui explique la récente décision de Lactalis de réduire sa collecte et d'abandonner des centaines de producteurs?
Alors, des centaines, je crois que c'est 600, c'est entre 600 et 800 à peu près producteurs. Ben, c'est une forme de rationalisation. Dans un premier temps, ça veut dire qu'ils préfèrent avoir des gros élevages et donc avoir moins de points de collecte. Tout simplement. Donc là, ils font porter l'optimisation industrielle directement sur la tête des éleveurs. Et aussi, c'est pour avoir la faculté d'acheter du lait à l'étranger, notamment en Espagne, parce que en Espagne, dans d'autres pays de la communauté européenne, parce qu'il peut être moins cher. Donc c'est l'ouverture à la concurrence. Donc pour ces éleveurs, ça peut être dramatique, parce qu'il y a certaines coopératives qui n'avaient que Lactalis, par exemple, c'est encore lui, c'est bon, je ne lui en veux pas personnellement, mais qui n'avait que Lactalis comme client.
Et maintenant, quelles sont les démarches de durabilité entreprises dans le secteur laitier et sont-elles suffisantes?
Alors, des démarches de durabilité, oui, quand même, on ne va pas leur jeter la pierre pour tout. Je pourrais prendre l'exemple de Sodial ou Yoplait, qui, par exemple, introduit des troupeaux de moutons aussi. Ça change un petit peu des vaches, mais ça remplace les tondeuses. Parce que parfois, il y a besoin de tondeuses. Ou ils mettent des nichoirs à oiseaux pour augmenter la diversité aviaire locale. On peut avoir des projets comme chez Bell, par exemple, agroforestier au Brésil. Alors pourquoi agroforestier au Brésil? C'est parce que pour nourrir le bétail, on apporte beaucoup de tourteaux de soja.
Donc c'est des alternatives végétales, ça?
Non, les tourteaux de soja, c'est pour nourrir les animaux. Et comme on les produit massivement au Brésil, et que pour ça, on déforeste.
D'accord.
Ah oui. Les industriels, voilà, ils vont faire des petits projets forestiers au Brésil en disant « Ah oui, on importe des tourteaux de soja, mais on replante des arbres. » Voilà, donc on est écolo.
D'accord. Et maintenant, pour terminer, quelles réformes seraient nécessaires pour rendre la filière laitière française plus équitable et durable ?
Ben, on a parlé la dernière fois des éleveurs, donc c'est toujours utile de le répéter. Dans l'agriculture, il y a des filières qui ne se portent pas trop mal. On peut parler des céréales. Alors, c'est contrasté, hein. Il y a des petits producteurs, des gros producteurs. Mais par contre, sur tout ce qui est la filière laitière, c'est un peu un cri d'alarme. Déjà, ça veut dire qu'il faut s'en occuper sérieusement.
On entend aux informations.
Hein. Ouais, il faut s'en occuper sérieusement parce que, je veux dire, la filière est un peu en danger. On risque de se retrouver qu'avec ce qu'on appelle les fermes de 1000 vaches. C'est-à-dire qu'on fera un peu comme les poules, hein, à un moment, avec les aviculteurs. On fera même plus sortir les vaches. On branchera la treilleuse directement dedans, enfin, je veux dire, sur la bête, 24 heures sur 24, etc. Puis on va les surdoser en alimentation pour qu'elles produisent un maximum. Alors, je n'ai pas cité, mais je pense qu'avant de parler de la durabilité, si on a encore le temps, je pourrais citer l'exemple du Salers, qui est très intéressant. Parce que dans l'exemple du fromage Salers, aujourd'hui, la plupart des producteurs le font à partir du lait qui vient des vaches Holstein. Alors, pourquoi des vaches Holstein alors que c'est du Salers? C'est parce qu'elles produisent énormément de lait, environ 30 litres par jour, au maximum. Contrairement à la Salers, qu'on produit moitié moins. Donc, alors, on se dit, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des Holstein qui ne sont pas issus de... Ce n'est pas des races d'Auvergne. Hein. Rien qu'avec le nom, on peut le deviner. Voilà. Alors que la vache Salers, elle est beaucoup plus rustique, mais elle résiste très bien au changement climatique, c'est-à-dire qu'il fasse chaud ou froid, elle s'adapte. On peut la mettre dans tous les coins, dans les prairies où il y a beaucoup d'herbes, pas beaucoup d'herbes, etc. Elle s'occupe très bien de ses petits, elle est capable, en toute autonomie, je veux dire, d'élever des veaux, ce qui n'est pas le cas avec la Holstein, qui est un peu génétiquement modifiée. Donc, en fait, on pousse une race qu'on modifie génétiquement au maximum pour de la productivité, au détriment de vaches locales qui s'adaptent très bien, qui sont, je veux dire, et ça va même jusqu'à, je veux dire, exclure les producteurs qui trayaient encore à la main les vaches Salers pour fabriquer du fromage Salers à la ferme. Certains sont exclus de l'AOP. C'est-à-dire que les industriels ont envahi les AOP de manière à abaisser les critères au minimum. Et aujourd'hui, l'UFC Que Choisir avait noté le cas du Saint-Nectaire, du Cantal et du Munster, où les critères des AOP ont tellement été baissés qu'en fait, la production industrielle de base était équivalente à celle de la production
le
AOP.
Le consommateur est bafoué là-dessus.
Complètement, il est floué quelque part. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, avoir un prix du lait qui soit quand même qui permette aux éleveurs de vivre dignement. Respecter les AOP. Un énorme travail sur l'environnement et tout ce qui est...
Il y a du travail, là.
Ouais, on critique pas mal les agriculteurs, disant qu'ils mettent des pesticides, des herbicides, etc. Mais il y a un gros problème avec l'eau. Et l'eau, on sait que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus rare. Enfin, pas trop en ce moment avec la météo. Mais c'est quand même quelque chose qui est précieux pour notre agriculture. Donc, on ne va pas faire ici la réforme systémique de la filière laitière. Mais... que les consommateurs surtout s'informent. Parce qu'on passe assez facilement, du pot de lait au fromage. Au milieu, il y a quand même une filière qui fonctionne comme des usines. Et c'est surtout à ça qu'il faudrait s'intéresser, parce que le consommateur a un pouvoir. Notamment, un camembert pasteurisé, ce n'est pas un camembert au lait cru. Alors, on commence à le savoir, OK. Mais si on ne donne pas aux enfants, des fromages affinés, des fromages faits au lait cru, etc., donc on va...
C'est l'apprentissage.
Ils n'auront plus aucun goût et ils vont trouver qu'un bon camembert, c'est un camembert pasteurisé. Voilà. Alors que non. On est là avec le camembert sur le très bon exemple. On a abaissé tellement les critères qu'on arrive à faire, à faire un peu de la bouillie et puis à dire aux gens, c'est un super produit d'origine authentique, etc. Donc voilà, je pense qu'on a fait une petite, petite découverte.
Oui. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs. Au mois prochain pour une autre
chronique.
Ouais.
Nous sommes tous des consommateurs, nous sommes tous des acteurs. L'UFC Que Choisir de l'Ain vous informe.